Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance et sa garantie de financer les études supérieures de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, pour nous les femmes.
Notre santé d'abord.
C'est notre priorité. Oui à la santé, non au tabou.
Priorité Santé, question de femmes.
Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette émission du vendredi consacrée à la santé des femmes, avec aujourd'hui un sujet qui provoque toujours beaucoup de réactions, le cycle menstruel. De nombreuses questions peut-être, parce que depuis toujours, il n'est pas forcément facile de trouver les mots pour parler des règles, à cause de la pudeur et encore aujourd'hui, beaucoup d'interdits et de fausses croyances entourent cet écoulement mensuel qui ponctue la vie des femmes de la puberté à la ménopause. Difficile pour les parents d'en parler, difficile pour certaines jeunes filles ou femmes d'exprimer la nature précise de leurs soucis, et une fois encore, alors qu'il est question tout simplement de santé au féminin, on fait beaucoup trop souvent face aux préjugés. On associe tabou, image défavorable et parfois même honteuse à un phénomène constitutif du corps des femmes, d'où l'importance de trouver des réponses à toutes ces questions parce que les règles, c'est naturel. Dire non aux douleurs, oui à l'hygiène et au confort féminin, ne plus se cacher pour acheter des protections périodiques ou en demander à une camarade en cas d'oubli, disposer de sanitaires dignes de ce nom pour se changer, lever les doutes, trouver les bons conseils, bref, parler des règles, tout simplement. C'est ce que nous vous proposons de faire aujourd'hui, avec pour vous éclairer, vous orienter et vous soulager, toutes les réponses d'un spécialiste. Et ce spécialiste, c'est vous pour parler des règles au pluriel dans les locaux des studios RFI en Mandincan et Foulfoulde à Dakar, dont on remercie toute l'équipe pour son accueil. Nous avons le plaisir de vous retrouver. Docteur Abdoulaye Diop, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes gynécologue obstétricien, médecin-chef à la clinique Nest à Dakar au Sénégal. C'est donc vous qui aujourd'hui allez conseiller les auditrices de l'émission.
Notre santé, si on en parlait.
Docteur Diop, parler des règles à une jeune fille, une question toute simple pour commencer. Il faut commencer à y penser. À partir de quel âge on parle aux enfants des règles ou on parle simplement à une adolescente de ces règles?
Il est important de parler des règles à une adolescente ou bien même commencer à lui parler des règles avant l'apparition des règles. Il est dommage d'attendre que ces règles apparaissent pour que les parents essaient un peu de rattraper le coup. Mais normalement, dès l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, quand on sait que les premières règles peuvent arriver, il est du devoir des parents d'aborder le sujet et de parler des règles et de parler de ces prochaines manifestations que sont la puberté qui vont arriver pour préparer la jeune fille à l'arrivée justement de ces règles et tous ces changements hormonaux qu'elle va constater au niveau de son corps.
En parler aux enfants, aux garçons aussi, ou finalement, ça ne les intéresse pas vraiment?
Les garçons sont concernés. Il est aussi important de les inclure dans la boucle et de leur expliquer les changements qui vont être constatés non seulement chez les filles, mais aussi leur parler des propres changements qui vont apparaître chez ces hommes dans le cadre de leur propre puberté à eux.
Docteur Abdoulaye Diop, pour être équipé, on va dire, le jour J, pour ne pas se retrouver contrarié, ça veut dire avoir à sa disposition les accessoires, les protections adéquates. Est-ce que certaines mamans vous posent la question à vous, le gynéco, docteur, qu'est-ce qui est le mieux pour ma fille? Et puis, comment mettre ces serviettes, jetables ou non, à disposition?
Oui, nous recevons souvent des mamans qui, lorsqu'elles sentent que les premières règles de leur fille va arriver, nous demandent des conseils. Nous avons à disposition souvent des petites brochures qui pourraient expliquer un peu comment ça va se passer, c'est quoi le cycle menstruel, etc. Et surtout comment gérer ce flux des règles. Et nous leur expliquons de choisir avec la jeune fille quelle est la meilleure protection hygiénique la plus adaptée pour cette jeune fille-là dès que les premières règles vont apparaître.
On n'y pense pas forcément, mais il faut peut-être aussi réfléchir avec l'école, le collège, les dernières années de la primaire, parce que docteur Diop, les règles, ça n'arrive pas qu'à la maison, ça arrive aussi à l'école.
Très souvent à l'école, d'ailleurs. La puberté survient de plus en plus précocement. Maintenant, on a vu des jeunes filles de 10 ans, 12 ans avoir leurs règles. Ce sont des pubertés qui sont relativement précoces et elles sont en général en âge scolaire. Il est important que les autorités sanitaires et les autorités administratives ou éducatives mettent à disposition tout ce qui est nécessaire pour qu'à l'école, que la jeune fille puisse pouvoir gérer ses règles correctement, notamment avec l'accès à des toilettes individuelles ou des toilettes réservées spécialement aux filles dans les écoles.
Docteur Diop, on en est aux données de base. On a dit l'âge moyen de survenue des premières règles. On voit des jeunes filles concernées des 10 ans, 12, 13 ans. En général, c'est à quel moment qu'il faut vraiment imaginer que ça va arriver à ces filles ou que ça va nous arriver quand on est une jeune fille et qu'on est à l'écoute?
A priori, les premières règles sont censées arriver vers l'âge de 12 ans. C'est l'âge moyen de survenue des premières règles, de la puberté. Il arrive que cette puberté soit précoce, et on a vu des cas à 10 ans, et même 9 ans, c'est quand même un peu exceptionnel, où ces règles sont arrivées, mais c'est relativement exceptionnel. L'indice ou bien le paramètre que le parent peut utiliser, c'est de voir à la maman, par exemple, elle, à quel âge elle a eu ses premières règles. Si elle a eu ses règles précocement, il est fort à parier que sa fille aura aussi des règles précocement, et donc il pourra prendre des dispositions pour lui en parler un peu plus tôt que prévu.
Et qu'est-ce qui détermine le volume du flux, par exemple, en début et en fin de cycle?
C'est très aléatoire. Les règles sont un phénomène que nous-mêmes, gynécologues obstétriciens, nous avons encore du mal à maîtriser à 100%. Certaines ont un flux normal, d'autres ont un flux abondant, d'autres ont un flux plutôt faible. Et même chez une même femme, selon le cycle de sa vie, selon les aléas de sa vie, selon son psychisme, selon son équilibre personnel, professionnel, conjugal, etc., le cycle peut changer d'une femme à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre. Et donc c'est très 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 variable et très aléatoire. L'essentiel, c'est que la norme pour nous, c'est qu'un cycle menstruel, en tout cas la durée des règles, varie entre 4 jours et 7 jours. En dessous de 4 jours, on considère que le cycle n'est pas suffisamment long, la durée des règles plutôt. Et au-delà de 7 jours, on considère que le flux est trop long. Mais cette moyenne ne cale pas pour toutes les femmes. Les femmes sont aussi variables que les règles sont variables.
Alors quand on parle des règles, on pense souvent aux douleurs. Des femmes observent certains changements au moment de leurs règles. C'est ce que nous explique sur la page Facebook de Priorité Santé Fitia. Elle nous écoute à Madagascar. Elle explique ressentir une douleur du côté droit de son ventre. Également aussi parfois un gonflement au bas-ventre comme une pression douloureuse. Fitia, donc cette auditrice, demande s'il pourrait s'agir de congestion pelvienne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet, docteur Diop?
D'abord, les règles douloureuses, ça n'est pas normal. Pendant longtemps, nous avons considéré, nos mamans, nos grands-mères, nos tantes, ont considéré qu'avoir des règles douloureuses, c'était normal, et qu'il fallait attendre d'avoir au moins son premier enfant pour se voir est-ce que les règles douloureuses allaient disparaître ou pas. Ce qui donne une grosse perte de temps dans le diagnostic de certaines pathologies responsables de ces règles douloureuses, et avec un retard évidemment au traitement. Donc, dès qu'on a des règles douloureuses, il est important de les consulter un médecin, de savoir ces douleurs-là, est-ce qu'elles sont en rapport avec une pathologie sous-jacente, un fibrome, un kyste, une infection, une endométriose, est traitée. Cette congestion pelvienne peut être à l'origine de règles douloureuses, c'est vrai, ou de douleurs pelviennes même diffuses ou chroniques, mais il est important de faire un diagnostic, d'avoir un nom sur la cause de ces règles douloureuses.
Alors à suivre, les questions des auditrices, mais tout d'abord des témoignages. Notre palabre au féminin, Charlie Dupieux ouvre son micro à des femmes. Aujourd'hui, elles sont trois mamans à Ris-Orangis, en région parisienne. Elles font partie du groupe de parole Femmes aux Femmes, au pluriel. Autour du micro, il y a donc Kani, 33 ans, Aminata, 32 ans et Mariam, 28 ans. C'est Mariam qui entame la discussion.
Le jour où ça s'est passé, j'étais sortie. Et en fait, je rentrais pour aller faire pipi. Et c'est là que j'ai vu en fait qu'il y avait du sang qui sortait. Et je n'osais pas demander à ma mère. Donc je suis partie voir ma sœur. Elle m'a dit, ça veut dire que tu as tes règles. Bon, je fais comment? Parce que je ne connais pas.
Non.
Donc elle m'a dit, tu mets tes culottes, tu mets ça comme ça, tu fermes et tu mets dessus et tu poses. J'ai dit, d'accord. Donc je vais aux toilettes, je fais ce que j'ai à faire, je vais prendre une culotte propre et tout. Et après, elle me dit, viens t'asseoir, je vais t'expliquer. Et je dis, tu vas m'expliquer, elle me dit, tous les mois, tu vas avoir du sang qui va sortir, donc il faudra que tu fasses comme ça et tout. Et je suis partie m'acheter un paquet de serviettes hygiéniques. Non, mais des fois, c'est marrant. Quand c'est le début, tu te dis, mais t'as peur, en fait. Parce que tu te dis, mais waouh, il y a du sang qui sort comme ça. Est-ce que t'as pas quelque chose ou il n'y a pas quelque chose dans toi? Mais en fait, on ne prépare pas. Enfin, chez nous, chez l'Afrique de l'Ouest, on ne prépare pas nos enfants.
Moi, comment ça s'est passé? J'étais aux toilettes. Je m'essuyais avec un mouchoir, je vois quelque chose de rouge, je dis mais c'est quoi ça? Je demande à ma grande sœur Sokona, c'est quoi? Et ma mère, elle me passe de l'argent, elle me dit va acheter des serviettes hygiéniques. Les serviettes hygiéniques, je savais pas comment les mettre, donc moi j'ai mis du côté la colle sur mon de l'autre côté, donc du coup je savais pas comment on met, donc j'ai mis la colle, donc du coup quand j'ai mis avec mes poils, donc du coup ça se démarre, j'ai dit non c'est pas comme ça, donc il faut que... Et après je me suis habituée, mais sinon personne m'en a parlé des règles, donc
Ça choque les règles, hein. Ouais, ça choque. Hein. Mais comme Marianne, moi, à mon tour aussi, c'est ma grande sœur qui m'a expliqué tout ça. Elle m'a dit tous les mois, tu auras tes règles. Voilà, c'est comme ça. Moi, je ne sais pas si vous avez des règles Vous connaissez vos dates de règles, parce que moi, depuis que j'étais jeune, j'ai été déréglée. Donc, je ne sais pas quand est-ce.
Moi, c'est toujours.
Je ne sais pas. Donc, du coup, des fois, je ne les ai pas pendant des mois.
Ça dépend.
Moi, je suis très irrégulière. Ça fait des fois 37 jours. C'est que quand je prends la pilule que je vois que mes règles arrivent à temps. Mais une fois que j'arrête la contraceptive, moi, je suis déréglée totalement.
Après, ça nous fait paniquer parce que des fois, tu dis, écoute, imagine que t'es enceinte, voilà, du coup, là, tu paniques à bord.
Ça y va, hein. Ça y va, à chaque fois, t'es en panique. Tu touches ton ventre, des fois, tu vois que ton ventre, il bouge. Tu te dis, même quand ton ventre, il gargouille, tu te dis, ah, peut-être, il y a un bébé. T'as peur.
Et du coup, non, c'est pas moi. Quand je suis partie faire mon test, même pas un jour, le soir même, mes règles sont venues. Les règles aussi, ça nous donne beaucoup de choses. Il y en a des boutons.
Non, ça ne nous donne pas forcément des boutons. Il y a des boutons avec les règles.
Je trouve que c'est sale. C'est sale. Ça a des odeurs.
C'est sale, c'est pas ça.
Franchement, je suis.
Oui, mais
il y a des points positifs comme il y a des points négatifs.
Il y a des inconvénients, ma chérie, aussi. Hein. Les premiers jours, quand ça coule, ça coule. Hein. Tu pries le bon Dieu que tu ne sois pas encore au travail. Hein, parce que ça, je peux te dire, ça fait des éclaboussures. Même au final, même, tu prends les couches de bébé, hein, à mon avis. Hein.
Vous avez mal au ventre, vous?
Moi, les
comme
jours,
les contractions?
Un peu.
Moi, en fait, les deux premiers jours, ce que je fais, c'est que quand je vais à la douche, je dure un peu longtemps, mais j'appuie. Ça fait mal, hein, mais j'appuie sur mon ventre. Et pour dégager le maximum de sang. À l'eau chaude. Vrrr, vrrr, vrrr. Et après, quand je mets les serviettes, ça coule, mais ça va. Parce que si je fais pas ça, oh là là, j'en ai. Hein. Tu peux changer tes serviettes au moins 4-5 fois par jour. Hein.
Tu t'assois juste, tu te relèves, vroum.
Ben oui.
C'est trop, moi.
Moi, je sais juste une chose, c'est que
comme j'ai des filles, je leur expliquerai ce que c'est les règles pour que demain elles puissent être amenées à bien se préparer. Parce que je sais qu'on n'est pas préparé, c'est difficile.
Ouais. Être informé, être préparé, impression recueillie par Charlie Dupieux. On vous retrouve dans les studios de RFI Dakar. Docteur Abdoulaye Diop, gynécologue obstétricien. Peut-être quelques réactions après cet échange entre femmes?
Oui, la dernière phrase m'a bien plu. La dame qui n'a pas eu la chance d'avoir été préparée à avoir ses premières règles, qui a pris la décision d'anticiper le jour où il aura une fille et lui en parler avant que les règles ne viennent, parce que sinon c'est un peu compliqué. Ça, j'ai bien apprécié.
Alors, on va tout de suite donner la parole à une première auditrice.
RFI à Pointe-Noire, 93.2 FM.
C'est vous, Michel, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes en ligne du Congo, vous avez 33 ans, Michel, 2 enfants, c'est bien cela ?
Oui, c'est bien cela.
Alors Michel, expliquez-nous pourquoi vous avez tenu à participer à cette émission consacrée aux règles, hein, au cycle menstruel.
Oui, je ne comprends pas mon corps en ce moment. Je subis des changements et vraiment, ça me met un peu mal à l'aise. Ça fait 3 mois de cela. Avant l'arrivée des règles, j'ai des symptômes, la sensation des jambes lourdes, fourmillement, une grosse fatigue, un manque d'appétit pas possible. Et ça peut traîner pendant 7 à 8 jours ou plus jusqu'à ce que je commence à saigner. Dès lors où je saigne, ça disparaît. Je me sens plus relaxe, plus joviale. Mais avant ça, ce n'est pas possible. Je suis vraiment mal à l'aise.
Vous vous sentez mal? Est-ce que ça dure depuis toujours, depuis que vous êtes jeune fille, cette espèce de symptômes réunis juste avant les règles, ou c'est quelque chose de plutôt nouveau?
Non, c'est plutôt nouveau. Je peux dire que c'est après 3 mois. Les 3 mois passés, c'était beaucoup plus la nervosité, l'irritabilité. J'avais des douleurs dans le dos, dans le bas-ventre, les maux de tête. Je ne voulais rien faire. Mais après, j'ai subi ces symptômes-là pendant 3 mois. Et après, on est passé à autre chose. Donc là, je constate maintenant que j'ai les jambes qui font mal. Vraiment la sensation de fourmillement, les jambes lourdes. Je ne peux rien prendre pour me soulager, sinon qu'attendre que je saigne pour que ça disparaisse.
Et vous n'en avez pas encore parlé à un médecin ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Je me dis que, en fait, j'aimerais bien comprendre. Est-ce qu'à un certain âge, on subit ce genre de changement, ou est-ce que c'est moi ? C'est particulier pour toutes les femmes, ou vraiment, je ne comprends pas.
Vous ne comprenez pas et vous êtes à la recherche d'explications, Michel. 33 ans, Michel, docteur Diop, elle a besoin d'explications sur ces changements. Est-ce qu'on va dire que certains de ces symptômes ne sont pas habituels?
C'est plutôt habituel. Michel est en proie à ce que nous appelons simplement le syndrome prémenstruel. Le syndrome prémenstruel, c'est un ensemble de manifestations, lourdeur des jambes, fourmillement, manque d'appétit, irritabilité, maux de tête, gonflement des pieds, etc., qui survient chez certaines femmes. On ne sait pas trop pourquoi. C'est probablement lié au taux d'hormones qui sont très élevés à la veille des règles et qui disparaît subitement dès que les règles arrivent, comme elle a si bien décrit. Donc ce syndrome prémenstruel est très 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 fréquent, plus de la moitié des femmes décrivent ce syndrome prémenstruel. Il est très variable, certains l'ont de manière invalidante, comme elle apparemment, ou d'autres le ressentent de manière plutôt légère. Et il existe des solutions parfois, j'invite Michel à prendre contact avec son médecin qui pourra lui proposer des solutions. Parfois c'est lié, semble-t-il, à un déséquilibre en magnésium, donc en corrigeant ce déséquilibre ça peut s'arranger. Certains médicaments antidouleurs peuvent aider et au pire des cas, il existe un traitement hormonal qui peut aider à faire passer ce syndrome prémenstruel.
Michel, quand vous entendez qu'il y a des solutions et qu'il faut consulter, vous avez envie de prendre rendez-vous justement pour vous soulager tout simplement ?
Oui, tout simplement, oui. Et puis, il y a aussi ces espèces de caillots qui sortent à chaque fois que j'ai mes règles. Je ne comprends pas. Mon sang n'est pas tout liquide. C'est toujours des caillots, des débris. Et puis, voilà, c'est tout ça qui s'accompagne.
Docteur Diop, également le changement sur la nature même du flux sanguin. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Michel à ce sujet ?
S'il y a des caillots, si elle a la sensation d'avoir des caillots, ce n'est pas normal. Le sang des règles est un sang qui est constitué de sang et des débris de la muqueuse utérine qui a été préparé pour l'éventualité d'une grossesse. Mais s'il y a des caillots, le sang des règles est censé être un sang incoagulable. S'il y a des caillots, il y a peut-être un problème derrière. Double raison pour aller consulter, faire une échographie et voir quel est le problème.
Donc vous invitez à consulter Michel hein, le plus rapidement possible. Et on vous remercie beaucoup pour cette participation à l'émission. Merci aussi parce que vous êtes la première programmatrice de Priorité Santé ce vendredi. Et vous avez choisi de partager avec nous ce titre de Whitney Houston, I Have Nothing. Share my life, take me for what I am, cause I'll never change all my colors for you. Everything that you do, I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again. This passion inside can't run from myself. There's no Priorité Santé sur RFI, émission spéciale Questions de femmes. Toujours en direct de Dakar, des studios de RFI, le docteur Abdoulaye Diop, gynécologue obstétricien, qui répond à nos auditrices. Et sans plus tarder, c'est à Ouadiboua, en Mauritanie, que l'on vous retrouve. Khadidia, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors Khadidia, vous vouliez nous parler de votre fille qui a 17 ans. Expliquez-nous pourquoi.
Ma fille a 17 ans. Elle a commencé à avoir ses règles à l'âge de 12 ans. Ses règles sont irrégulières. Elle peut rester 3 mois sans ses règles. Du coup, ça, un jour avant que ça vienne, elle souffre, elle a des douleurs. Si je donne de l'espace, elle se calme rapidement. Et du coup, on est allé à l'hôpital pour faire des analyses de l'urine naissant. Et puis, dès que le résultat est sorti, ils m'ont dit qu'il est un peu animé. Ils m'ont prescrit un médicament, mais ça n'a pas marché.
Alors, des analyses d'urine, des analyses de sang, un résultat, c'est de l'anémie. Est-ce qu'ensuite, vous êtes allée avec votre fille consulter un gynécologue ?
Non, je ne suis pas allée.
Je peux vous demander pourquoi ?
Bon, comme j'ai fait déjà des analyses de sang et d'urine, ils m'ont dit qu'il n'y a pas de problème. C'est début d'anémie seulement, bon, je ne suis pas allée.
Vous n'y êtes pas allée. Alors, expliquez-nous ce que vous souhaitez demander à notre invité, au docteur Diop.
Bon, je voulais demander, est-ce que Le fait de rester chaque 3 mois pour voir ses règles, est-ce que c'est une maladie ou bien c'est quelque chose de naturel?
Khadidia, donc cette maman qui est préoccupée par la santé de sa fille, docteur Abdoulaye Diop, qu'est-ce que vous pouvez dire face à ce tableau? Donc sa fille qui a ses règles depuis 5 ans maintenant, un espacement de 3 ans entre 2 cycles. On entend bien que Khadidia a besoin d'être rassurée, j'imagine que sa fille aussi. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Oui, ce que nous pouvons dire à Khadidia, c'est que c'est pas normal. Avoir ses règles tous les 3 mois, ce n'est pas normal. Un cycle menstruel dure entre 25 jours et 35 jours maximum. Donc rester 3 mois sans avoir ses règles, ce n'est pas normal. Sa fille a fait un bilan qui a montré une anémie qui peut expliquer en partie l'irrégularité de ses règles. C'est vrai qu'une anémie peut entraîner des troubles du cycle, des règles irrégulières, mais je pense que ce n'est pas tout. Il y a peut-être quelque chose d'autre derrière. Et il est indispensable qu'elle puisse voir un gynécologue qui fera une échographie à sa fille, qui fera peut-être un bilan hormonal. Et peut-être ce bilan hormonal pourra apporter des réponses et des solutions à cette irrégularité des règles chez sa fille.
Khadidia, est-ce que c'est pour des raisons financières, parce qu'on se parle franchement pendant cette émission, est-ce que c'est peut-être pour des problèmes d'argent que votre fille n'est pas allée faire d'autres examens, notamment demandés par un gynécologue?
Non, c'est pas du tout.
Donc si le docteur Diop vous conseille de faire ces examens, c'est quelque chose que vous pouvez faire?
Bien sûr.
C'est donc la bonne solution, hein. Pour votre fille, elle s'appelle comment votre fille, Khadidia?
Fatima.
Ben on la salue et puis on dit bonne continuation à toutes les deux. On vous remercie. Bonne journée en Mauritanie. On a aussi des questions Facebook des auditrices. Hein. Par exemple, Karine du Burkina Faso, question sur le lien entre contraception et cycle menstruel. Elle se demande, elle vous demande, docteur Diop, si les méthodes contraceptives peuvent allonger la période d'écoulement de sang, changer aussi la couleur des règles.
Oui, il existe certaines méthodes contraceptives qui peuvent changer ou augmenter la période de coulement des règles, notamment les dispositifs intra-utérins, encore appelés stérilés. Ces stérilés ont pour effet secondaire un allongement de la durée des règles, une augmentation du volume des règles et quelques douleurs. Il existe d'autres méthodes, par contre, à contrario, qui vont diminuer le volume des règles ou même faire en sorte que les règles ne viennent pas, telles que les contraceptions injectables. Dans ce cas, comme effet secondaire, on peut avoir une absence de règles ou bien des petits saignements en dehors des règles qu'on appelle des spotting. Donc oui, certaines méthodes contraceptives peuvent avoir un impact sur la forme et l'aspect des règles.
Et c'est ce qu'a constaté aussi une autre auditrice, Rafiat. Elle témoigne, Rafiat du Bénin, elle témoigne sur Facebook. Le mois dernier, on lui a posé un dispositif intra-utérin au cuivre, donc un stérilet. Le gynécologue l'avait prévenu que ses règles pouvaient être plus abondantes, durer plus longtemps. Mais Rafiat constate aussi des douleurs, un cycle plus court de 28 à 21 jours. Est-ce que vous avez des explications, docteur Diop?
Oui, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Un dispositif intra-utérin peut entraîner une augmentation du volume des règles, une augmentation de la quantité des règles et des règles douloureuses. Bon, elle vient de le mettre, ça fait 1 mois, elle va se donner une période de 2-3 mois pour voir si les choses vont se stabiliser, c'est ce qui arrive dans la plupart des cas. Sinon, son médecin peut lui prescrire des médicaments pour diminuer un peu ce volume des règles et surtout pour arrêter les douleurs qu'elle ressent pendant les règles.
Et tout de suite, une auditrice en ligne du Sénégal.
RFI à Kaolack, 91.5 FM.
C'est vous, Ndeye, bonjour.
Bonjour.
Alors, expliquez-nous ce qui vous tracasse, Ndeye, en préparant l'émission. Vous avez indiqué que vous êtes atteinte d'une maladie chronique, hein, c'est bien cela?
Oui, polyarthrite rhumatoïde.
Et vous avez quel âge, Ndeye?
J'ai 47 ans.
Et vous avez déjà des enfants?
Oui, j'ai 3 enfants.
Aujourd'hui, votre cycle, il est comment? Vous avez un cycle plutôt régulier ou irrégulier?
Irrégulier.
Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe au juste?
Ce qui me préoccupe, c'est je suis allée voir un gynécologue. J'ai fait tous les examens, les analyses de fertilité. J'ai fait l'hystérosalpingographie, mais toujours rien aussi.
Vous avez un désir d'enfant, Ndeye, c'est ça?
Oui.
Et le médecin, quand vous lui avez parlé à la fois de votre maladie chronique, cette polyarthrite rhumatoïde, et puis également que vous avez signalé votre âge, 47 ans, qu'est-ce qu'il vous a dit?
Il m'a dit que je n'ai pas de problème pour concevoir.
Vous prenez un traitement particulier, Ndeye, pour cette maladie?
Oui, je suis sous traitement. Je prenais méthotrexate comprimé, mais je l'ai arrêté depuis 2 ans.
Vous l'avez arrêté depuis 2 ans. Et les examens ont montré qu'il n'y avait rien, on va dire, d'inhabituel ou d'anormal chez vous?
Oui, les examens n'ont rien montré.
La question que vous souhaitez poser maintenant au docteur Diop?
Mon seul problème, c'est pourquoi je n'arrive pas à avoir mes règles régulièrement.
Docteur Abdoulaye Diop, qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette auditrice? On a entendu, hein, elle a une maladie chronique, elle a pris longtemps un traitement qui est assez puissant, du méthotrexate, pour ne pas le citer, qui est un immunosuppresseur. Et aujourd'hui, à 47 ans, elle voudrait avoir d'autres enfants. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Oui, Andaï, ce que je pourrais dire, c'est que bon, déjà à 47 ans, avoir commencé à avoir des problèmes de cycle, des troubles du cycle, c'est plutôt normal. 47 ans, on se rapproche de la ménopause, même si son bilan hormonal est revenu normal. Mais il est tout à fait normal et logique qu'on ait aussi bien des difficultés à tomber enceinte à 47 ans que parfois des troubles du cycle. Heureusement pour elle, le bilan hormonal qu'elle a fait est revenu normal. Mais n'oublions pas qu'elle a une polyarthrite rhumatoïde, qui est une maladie systémique immunitaire qui peut avoir un impact sur beaucoup d'organes dans le corps, notamment les ovaires. Et elle a pris du méthotrexate pendant probablement plusieurs années. Et ce méthotrexate peut avoir un effet délétère sur les ovaires. Donc, je l'invite peut-être à faire un bilan plus poussé avec son gynécologue. J'ai pas entendu dans tout ce discours le bilan du conjoint. Dans un problème de fertilité, il faut y inclure le conjoint, voir si le conjoint de son côté, il n'a pas de problème de fertilité. Et là, avec un peu de chance, Inch'Allah, peut-être qu'elle pourra avoir son quatrième bébé désiré.
Votre conjoint, Day, c'est celui avec lequel vous avez eu les trois premiers enfants?
Oui, c'est lui.
C'est le papa des autres enfants, c'est ça?
Oui, c'est le papa, oui.
Donc, retournez voir un médecin pour essayer de faire d'autres recherches, pour essayer de comprendre précisément ce qui vous arrive. On peut un petit peu résumer ainsi votre propos, hein, docteur Diop?
Oui, exactement, d'accord, oui. Je le ferai.
On vous remercie beaucoup, Ndeye. Hein. On a aussi cette question Facebook de Larissa du Cameroun, mère d'une petite fille tout récemment, retour de couche il y a quelques jours seulement. Et Larissa se demande si elle peut recommencer à calculer son cycle comme avant.
A priori, oui. Si Larissa avait un cycle régulier avant sa grossesse, a priori, quand le retour de couche survient, le cycle redevient normal. Il est quand même plus prudent d'observer une période de 3 mois après le retour de couche pour voir effectivement est-ce que les règles vont se normaliser ou pas, pour être sûr que c'est le cas et pouvoir utiliser cette méthode de calcul comme méthode de contraception. Mais a priori, si son cycle était régulier avant la grossesse, il devrait être régulier après la grossesse.
Docteur Abdoulaye Diop, on va tout de suite prendre une autre auditrice en ligne. C'est Erichelle. On retourne à Pointe-Noire au Congo. Erichelle, bonjour.
Bonjour.
Alors Erichelle, vous avez observé des changements dans votre cycle depuis quand exactement?
Depuis mai 2020.
Et comment décrire ces changements dans votre cycle?
Ces changements, bon, j'ai fait un mois, je ne réglais pas. Mais avant, c'était normal. Je ne réglais pas. Après le mois qui suit là, après j'ai commencé à saigner. Je croyais que c'était des règles. J'ai attendu une semaine, deux semaines, ça faisait que couler pendant un mois et plus.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe précisément?
Bon, ce qui se passe, j'étais allée à l'hôpital, j'ai fait l'échographie. Première échographie a révélé que j'avais une dystrophie ovarienne. J'ai suivi un traitement, ça a passé un peu. J'ai fait au moins 2 mois, je ne saignais pas. Le troisième mois qui suivait là, j'ai commencé encore à saigner. Je suis encore allée à l'hôpital, j'ai fait encore l'échographie, la deuxième échographie me révèle qu'il n'y en avait rien, tout est normal.
Alors, excusez-moi, je vous interromps, Erichelle, pour poser cette question au docteur Abdoulaye Diop. Une explication avant de poursuivre avec vous. Dystrophie ovarienne, de quoi s'agit-il?
La dystrophie ovarienne est une maladie endocrinienne, ovarienne, caractérisée par la présence de microkystes. C'est des follicules, pour être plus exact, ce ne sont pas des kystes, mais c'est des follicules, au niveau de la surface des ovaires. Et cette dystrophie ovarienne entre dans le cadre habituellement de ce qu'on appelle le syndrome des ovaires micropolykystiques, qui inclut une dystrophie ovarienne, donc de microkystes au niveau des ovaires, des troubles du cycle menstruel et des signes métaboliques pouvant être soit ce qu'on appelle de l'hirsutisme, des poils au niveau du menton, de la moustache chez les femmes, en tout cas des zones habituellement qui sont censées être sans poils chez les femmes, ou bien de l'acné chez les femmes. Et c'est une des principales causes de troubles, de perturbations du cycle menstruel.
Donc ça donne des éléments d'explication, mais Erichelle, quand vous êtes allée justement en consultation, on l'a entendu à plusieurs reprises à l'hôpital, est-ce que vous avez pris des traitements?
Oui, j'ai pris des traitements, il y a même 2 traitements que j'ai pris.
Quoi? Est-ce que vous pouvez me citer ce qu'on vous a donné comme médicament?
J'ai pris des antibiotiques, ciprozole, après on m'a mis sous traitement de Duphaston et Exacil.
On vous a donné des médicaments pour quoi précisément?
Non, les médicaments qu'on m'a donnés, c'est pour arrêter les saignements et les antibiotiques. C'est tout.
Les antibiotiques, c'était pour quoi? C'est pas pour arrêter les saignements, les antibiotiques?
Bon, je ne sais pas. Les antibiotiques, je ne sais pas. Mais on m'a seulement mis ça dans l'ordonnance.
Est-ce qu'on vous a diagnostiqué une infection ou quelque chose en lien avec un problème gynécologique de cet ordre?
Bon, une infection, c'est après, je crois, la semaine passée, je suis allée encore à l'hôpital. On m'a fait un PV, c'est là où on a révélé que j'ai une infection.
Et aujourd'hui, vous avez quoi comme traitement?
Aujourd'hui, j'ai Fixim comme antibiotique.
Mais cela n'a pas vraiment de rapport avec votre problème, justement, que vous décriviez tout à l'heure, à savoir la dystrophie ovarienne.
Pour l'enseignement, on m'a donné Emastop.
Donc, pour arrêter les hémorragies. Docteur Abdoulaye Diop, on comprend bien que Erichelle se retrouve confrontée à plusieurs diagnostics. On a l'impression que les explications ne sont pas très, très claires. Comment est-ce que vous voyez les choses?
En fait, ce que Erichelle doit comprendre, c'est que la dystrophie ovarienne, déjà, on n'en guérit pas. C'est une maladie de naissance, endocrinienne, génétique, probablement héréditaire, habituellement héréditaire, et on n'en guérit pas. Ça, c'est la première chose. Elle est responsable de la plupart de ces troubles du cycle et il faudrait qu'elle l'accepte et qu'avec son gynécologue, il puisse lui proposer un traitement pour régulariser son cycle ou un traitement pour pouvoir tomber enceinte s'il y a un désir de grossesse. Et le traitement de la dystrophie ovarienne ne se conçoit normalement qu'en cas de désir de grossesse sur la base des résultats d'un bilan hormonal. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en plus de la dystrophie ovarienne, elle a bien le droit d'avoir une infection. Probablement infection, parasitaire, candidose, en tout cas des champignons, d'après ce que j'ai compris, les médicaments qu'on lui a donnés. Et donc, cette infection n'a rien à voir avec la dystrophie ovarienne. Et c'est une infection comme ça peut arriver à n'importe qui. Et là aussi, elle aura un traitement pour faire disparaître, en tout cas pour traiter et soigner cette infection vaginale qu'elle a. Ce n'est pas lié à la dystrophie ovarienne.
Et ça nous renvoie, docteur Abdoulaye Diop, peut-être à lancer un message aux médecins, aux soignants, aux sages-femmes qui nous écoutent pour un effort de pédagogie. Parce que si on avait expliqué à Erichelle avec des mots simples la nature de ses problèmes, puisqu'elle a fait l'effort de consulter, elle a donc payé ses consultations, pourquoi on donne un traitement, pourquoi on donne tel médicament, ça permet de comprendre ce que l'on ressent, ça permet aussi d'être rassuré.
Oui, c'est vrai que nous, soignants, nous avons quand même un rôle. Nous devons prendre sur nous, faire l'effort d'expliquer à nos patientes que nous recevons leur pathologie, le diagnostic posé, les tenants et les aboutissants de cette pathologie, les implications, le traitement, les éventuels effets secondaires attendus pour ce traitement-là, et ça les rassurerait plus. Bon, c'est vrai que parfois, dans le feu de la consultation, quand il y a beaucoup de patients, on a tendance à abréger, ce qui est quand même dommage. Mais oui, si Erichelle avait eu les informations nécessaires, exhaustives sur sa pathologie, cette dystrophie ovarienne, et qu'on lui explique que ça n'a absolument rien à voir avec une infection qui est un événement intercurrent qui est arrivé dans sa vie et qui arrivera probablement encore, elle aurait peut-être plus de sérénité et savoir que c'est tout à fait normal et accepter le traitement qu'on lui proposerait.
Voilà toutes ces explications. Merci beaucoup Erichelle pour son appel. Excellente journée à Pointe-Noire.
RFI à Libreville. 104 FM.
Et une dernière auditrice qui est avec nous aujourd'hui de Libreville, du Gabon, c'est vous, Axel. Axel, bonjour.
Bonjour.
Alors Axel, vous avez 31 ans. Et ce qui vous inquiète, c'est la faiblesse de votre flux. C'est bien cela?
Oui, c'est exact. Alors, ça n'arrive pas tous les mois, mais je remarque quand même que par moment, le flux mensuel est très très faible. Et ça dure pendant tous les 5 jours que durent mes règles. Ces cas-là, j'ai de violents maux de tête, quasi invalidants en fait.
Est-ce que vous avez cherché des explications, Axel, tant pour ces maux de tête, je ne sais pas si on peut parler de migraines, que justement pour ce flux qui, selon vous, n'est pas normal en termes de quantité?
Bon, j'ai vu un gynécologue en 2016. Bon, il a parlé de migraines, que c'était dû aux hormones et que ça s'arrêterait une fois que j'aurais enfanté. Il m'a prescrit un anti-migraine 2 et je ne me détache pas de cet anti-migraine-là, sinon ça ne va pas. Alors, j'ai accouché en 2018 de mon premier enfant, puis en 2020 le deuxième. Ça s'est plus ou moins calmé un moment, mais là, c'est comme si ça va revenir en fait, parce que j'ai eu encore un épisode comme ça au mois d'août, donc il y a juste quelques jours à peine.
Retour des maux de tête. Est-ce qu'aujourd'hui, Axel, vous êtes sous contraceptif?
Non, pas du tout.
En tout cas, tout à l'heure, vous parliez de la faiblesse de ce flux menstruel. Est-ce que c'est la même chose depuis que vous avez eu vos enfants?
Oui, ça n'arrive pas plusieurs mois de suite, mais ça arrive comme ça. C'est assez fréquent pour que je puisse le remarquer. Donc, je ne sais pas. Et on m'a aussi parlé de mon poids, que ça pourrait être à l'origine de ça, parce que je suis assez menue quand même. Alors, je ne sais pas si ça pourrait être une cause, j'en sais pas.
En tout cas, ce que vous avez constaté avec l'arrivée de vos enfants, c'est que ce flux n'avait aucune incidence sur votre fertilité.
Oui, exactement, exactement. Oui,
alors, excusez-moi de vous poser la question, pourquoi ça vous inquiète?
Ben, ça m'inquiète parce que, en fait, je sais pas. Déjà, la première chose, c'est que ben, c'est les migraines. Parce que quand ça arrive, c'est invalidant, ça c'est sûr. Mm-hmm. Et quand je remarque que le flux est très faible, ben, la conséquence, c'est ça, c'est direct. Il faut absolument que je me shoote aux antimigraineux, sinon ça passe pas. Et je passe toutes les journées et ça dure comme ça pendant 5 jours.
Parce que vous faites le lien entre votre flux et la migraine.
C'est ça, systématiquement. Je ne sais pas si c'est vraiment lié ou si c'est mon expérience personnelle à moi. Alors, j'ai aussi la question que je voudrais poser au docteur qui est sur le plateau. Je ne sais pas, en fait.
Alors, il y a plusieurs questions. En fait, docteur Abdoulaye Diop, hein, c'est vrai, il y a des migraines qui sont directement liées aux règles.
Oui, il existe des migraines qui sont directement liées aux règles. Ce sont des migraines qu'on appelle des migraines cataméniales. Les migraines cataméniales sont à l'instar du syndrome prémenstruel, sont des migraines qui surviennent pendant les règles. On ne sait pas trop aussi quelle est la cause. Est-ce que c'est hormonal? Probablement. Inflammatoire? Probablement aussi. Ça existe, oui.
Et par contre, pas forcément de lien entre la quantité du flux et les migraines.
Ce que j'ai envie de dire à Axel, c'est que son flux est normal. Elle dit qu'elle a un flux qui dure 5 jours. 5 jours de règles, c'est normal. Les règles durent entre 4 jours et 7 jours, donc elle est dans cet intervalle normal. Donc elle peut être rassurée par rapport à la durée de saignement qu'elle a. Le deuxième jour, le flux est relativement abondant, ok. Donc, en tout cas, c'est normal. Maintenant, il n'y a pas obligatoirement un lien entre le sang qu'elle perd, qu'elle trouve un peu insuffisant probablement, et ses migraines. Et il ne faut pas qu'elle pense que c'est du sang qui est resté à l'intérieur de son corps, qui ne sort pas, et c'est qui a l'origine de ses migraines. C'est pas du tout le cas. Elle a la malchance d'avoir des migraines cataméniales. Ces migraines cataméniales peuvent survenir chez des patients qui ont un flux normal ou un flux abondant ou un flux pas abondant. Heureusement, même qu'elle a un flux normal, parce que ces migraines cataméniales peuvent être en général augmentées si jamais elle avait un flux encore plus abondant, un flux abondant qui aurait pu être à l'origine d'une anémie qui va aggraver ces migraines cataméniales. Donc, qu'elle se rassure, son flux est normal. Maintenant, il faudrait plus qu'à gérer, à prendre en charge ces migraines cataméniales avec le traitement adéquat.
Ces migraines cataméniales, qui les prend en charge? Un gynéco ou un neurologue?
Les deux, un gynéco, un neurologue. Les neurologues sont plus habilités à le faire, c'est quand même leur domaine. Mais un gynécologue peut lui proposer des médicaments pour gérer ses douleurs.
Donc déjà rassuré sur le flux menstruel. Je sais, Axel, que vous aviez une autre question à poser à notre invité sur la nature des serviettes périodiques. Expliquez-nous.
Oui, alors moi je suis au Gabon, comme vous avez dit. Depuis quelques années, on nous fait la promotion, on va dire, de serviettes hygiéniques innovantes, avec, on parle d'énergie magnétique, d'ions négatifs, enfin on ne comprend rien. Ces protections auraient beaucoup de propriétés, guérissent des règles douloureuses, renforcent l'immunité, enfin préviendraient même le cancer du col de l'utérus. Donc je voudrais savoir de quoi il s'agit.
Alors, ça mérite effectivement des explications parce que moi, à titre personnel, je le reconnais, j'étais totalement ignorante. J'en ai jamais entendu parler. Ces serviettes à anion, vous connaissez, docteur Abdoulaye Diop?
Oui, je connais.
Mais alors, vous riez. Mais moi, quand je suis allée voir sur Internet, parce que quand même, j'ai préparé un petit peu l'émission, ça m'a pas fait rire. Hein. Non, mais franchement, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Oui, au Gabon comme au Sénégal, depuis quelques années, il y a ces serviettes hygiéniques dites super serviettes, agnon, bon, pour éviter de citer le nom de marque, et qui contiendraient une substance anti-inflammatoire qui aiderait un peu à gérer les douleurs, à éviter le cancer du col, etc. Bon, bref, sans faire de la langue de bois, hein, moi je vais dire les choses comme je le pense. C'est donc des serviettes de qualité. Bon, il y a intérêt que ce soit des serviettes de qualité, vu que ça coûte 4 à 5 fois plus cher que les serviettes hygiéniques classiques sur le marché. Donc, par rapport à la qualité de la fabrication de ces serviettes hygiéniques, là, on n'a pas de doute. Par contre, toute la publicité que l'on fait derrière en disant qu'il y a une pastille à l'intérieur, il y en a même certains conseillers commerciaux qui proposent à la patiente d'enlever cette pastille et de la boire, ou etc., ce genre de choses-là, ce sont des pratiques que je décommande fortement. Se borner à dire que ce sont des serviettes de qualité, vu la constitution, les constitutions et le prix que ça coûte, je suis d'accord. Mais ce ne sont en aucun cas des serviettes miracles qui vont être à l'origine ou qui vont traiter tous les problèmes gynécologiques qu'une patiente peut avoir durant sa vie gynécologique. Donc, c'est plus un système de commerce pyramidal qui a été mis en place, qui permet un peu de faire la promotion de ce produit. Mais la plupart des choses que l'on miroite, que l'on propose à ces femmes, je suis désolé, mais ce n'est pas le cas.
Ce sont des moulins à vent hygiène. Quand on utilise des serviettes périodiques, c'est de les changer régulièrement, c'est d'avoir une toilette intime au moment des règles en général pour la vie des femmes, c'est plutôt ça dont il faut faire la promotion. Et si on a des relations non protégées, des relations avec plusieurs partenaires, avoir toujours des relations protégées, docteur Diop.
Exactement. Il faut aussi reconnaître que sur le marché, il y a un certain nombre de serviettes hygiéniques qui sont mis à disposition des femmes et qui ne sont pas de bonne qualité. Et c'est le fait d'utiliser des serviettes hygiéniques qui ne sont peut-être pas de bonne qualité ou bien de ne pas les changer, de respecter la périodicité à laquelle il faut changer les serviettes hygiéniques peuvent entraîner des petits soucis dans la gestion du flux menstruel. Ces serviettes, en l'occurrence commercialisées, sont des serviettes de qualité, c'est vrai, mais tout ce qu'on le prédit par rapport à ça, je suis désolé, mais dans la plupart des cas, c'est pas vrai.
On a commencé l'émission en parlant de, on va dire, l'entrée dans les règles. Si vous le voulez bien, et avant de saluer tout à fait Axel, j'aimerais qu'on parle de la fin des règles, la ménopause. Tout à l'heure, nous avions une auditrice de 47 ans. On parlait d'une fertilité moindre, justement, à cause de tous les changements qui arrivent avant 50 ans et après 50 ans pour le corps des femmes. Quand est-ce que les règles s'arrêtent en général et est-ce que ça s'arrête d'un coup ou est-ce que c'est plutôt échelonné dans le temps, docteur Diop?
De la même manière que les premières règles surviennent de manière assez irrégulière, avant de se stabiliser au bout de 2-3 ans, à la fin du cycle menstruel, la ménopause va survenir de manière aussi progressive. Cette ménopause sera précédée d'une période qu'on appelle la préménopause, qui survient en général à partir de 45 ans et qui est caractérisée par justement des troubles du cycle menstruel. Allant plus souvent dans le sens d'une irrégularité des règles qui vont rester 2-3 mois sans venir, revenir, rester 3-4 mois, revenir, ainsi de suite, jusqu'à s'arrêter définitivement. Puis chez certaines patientes, la minorité, ces règles peuvent aussi être plus rapprochées. Donc tous les cas de figure sont possibles, soit de voir ses règles 2-3 fois le mois, ou bien rester 3-4 mois sans voir ses règles à partir de 45 ans, associé à d'autres signes de climatériques tels que la sécheresse vaginale, une irritabilité, des bouffées de chaleur, des migraines et autres, et qui sont le témoin de l'épuisement ovarien qui est en prélude à l'arrêt de ce cycle menstruel et donc à la ménopause. Quand cette ménopause survient de manière effective, on parlera de ménopause quand la patiente restera plus de 12 mois sans voir ses règles. Habituellement, ces signes associés tels que les bouffées de chaleur, tels que l'irritabilité, la sécheresse vaginale, la diminution de la libido, ces signes ont tendance à s'amender et l'équilibre hormonal se retrouver et la patiente peut avoir une vie personnelle, une vie sexuelle, une vie génitale plutôt satisfaisante. Il existe des traitements. Si ces signes sont invalidants, on peut toujours se rapprocher de son médecin, de son gynécologue, de son endocrinologue qui va proposer des traitements pour amoindrir ces symptômes de la préménopause et améliorer la qualité de vie de la patiente.
Axel, est-ce que vous êtes toujours avec nous en ligne ?
Oui, je suis là.
Alors, tout à l'heure, vous avez posé cette question au docteur Diop, on va dire, sur des produits assez innovants en matière d'hygiène périodique. Moi, j'ai une question à vous poser. En Europe, il y a de plus en plus de jeunes filles, de jeunes femmes qui ont recours aux culottes menstruelles, aux cups. Ce sont des dispositifs réutilisables, bien sûr, pour des soucis à la fois économiques et d'environnement. Est-ce que ça existe chez vous, au Gabon, en Afrique centrale, ce type de dispositif?
Concernant les cups, là, j'ai vu des posts sur Facebook, sur les réseaux, de personnes qui en vendaient, qui en avaient fait venir et qui en vendaient. Mais dans les circuits traditionnels, en grande surface, ainsi de suite, non, j'en ai pas vu. Mais ça se vend un petit peu comme le docteur a dit, là, comme ce dont nous parlions tout à l'heure, les serviettes dites innovantes, là. C'est pas dans les circuits traditionnels de vente, on ne les trouvera pas en grande surface, chez le boutiquier, ainsi de suite, non. Il faut connaître une personne qui connaît une personne qui vend, ainsi de suite.
J'ai vu ça en France, d'ailleurs, nous on trouve ça sur Internet, sur des sites d'ailleurs internationaux, pas forcément sur des sites nationaux. En ce qui concerne les culottes menstruelles, on en trouve en Afrique ou pas du tout?
Qu'est-ce que vous entendez par culotte menstruelle?
Alors justement, ce sont des culottes dans le fond, hein, le fond de la culotte habituelle, au lieu que ce soit un tissu fin, un tissu de coton, eh bien ça va être une matière absorbante. On en a plusieurs, on les lave, on les fait sécher et en fait ça remplace la serviette. C'est comme incorporer, on va dire, pour les bébés il y a les couches culottes. Et ben là c'est une culotte de femme mais qui peut être assez jolie. Il y a même des modèles avec de la dentelle et ça se lave à l'eau froide, hein, pour éliminer correctement le sang avec du savon. On le fait sécher et ça évite de jeter et d'avoir énormément de déchets.
Bon, personnellement, je ne sais pas, je ne saurais pas vous répondre.
C'est pas encore arrivé.
Il y a des culottes pour fuites urinaires que j'ai vues. Pour fuites urinaires, oui. Maintenant, pour les menstrues, non. Personnellement, je n'ai pas vu.
Ça n'est pas encore arrivé. Docteur Abdoulaye Diop, ma dernière question, ça peut paraître peut-être un peu futile au médecin que vous êtes. Je vous pose quand même la question. Cette question de l'équipement en serviettes hygiéniques, en protection périodique. C'est quand même quelque chose d'important parce qu'on observe là aussi d'importantes inégalités pour les femmes pour avoir ce droit à la propreté, ce droit au confort.
Oui, il existe une sorte de ce que nous appelons une précarité menstruelle liée à la difficulté que beaucoup de patients à travers le monde, des milliards, ont des difficultés à accéder à la méthode de protection hygiénique adéquate pour elles. Soit pour un problème économique, certainement dans la plupart des cas, ou un problème d'accessibilité à l'eau potable, etc. Et ça pose un gros, gros problème. Il existe beaucoup de méthodes pour la gestion des règles, la coupe menstruelle, la culotte que vous avez évoquée, les serviettes hygiéniques, jetables, lavables, etc. Mais malheureusement, à travers le monde, il existe beaucoup de femmes qui ont de grosses difficultés, non seulement à se procurer ces méthodes de gestion des règles, mais aussi à les utiliser de manière correcte, ce qui va entraîner des problèmes gynécologiques en plus des autres problèmes qu'elles peuvent avoir.
Merci pour toutes ces explications. On vous remercie beaucoup, Axel, pour vos questions. Double merci. C'est vous, la dernière programmatrice de l'émission. Et avec votre choix, on va dire au revoir à notre invité, au docteur Abdoulaye Diop, gynécologue obstétricien, médecin-chef à la clinique NES de Dakar. Au revoir et merci beaucoup, docteur Diop.
Merci Caroline, à bientôt.
À bientôt, on salue toute l'équipe du studio de Dakar. Belle journée aussi à vous, Axel, à Libreville, en écoutant ce grand nom de la musique camerounaise, Richard Bona, avec Ba Sengue. J'espère que je l'ai bien dit. Ba Sengue dans Priorité Santé. Ba Sengue, Sengue na. Nume batu nyalo mbenga. Mbenga mo. Be one and you're the now what it is to my love at tum tum. Your malambo money and then batumba. Me quara mule mania. Say tumba. Sing it, sing it now. Guma tumba. Kwangangonya na ba wonje na kumba tibendolo na ba tobese ulunge kumba bwem ipambo senge senge na kumba kumba nyalo bone Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. Louise Kaledek, Ophélie Lassen, Steven Esley et Guillaume Lebouvier à Paris, à Dakar, Maïmouna Diop et Sarah Doumbia. Lundi dans Priorité Santé, on va parler de l'obésité infantile, prédisposition familiale, alimentation, activité physique, dépistage et prise en charge. On se retrouve lundi. D'ici là, portez-vous bien.
Milliards de voisins.